un podcast France Culture.
À Amsterdam, un quartier complet, composé de dizaines de maisons flottantes, est sorti de l'eau en quelques années. Les rues, les maisons, tout flotte. Et les familles apprécient cette vie très particulière.
Nous sommes à l'étage le plus bas de la maison. Et comme vous pouvez le voir, le niveau de l'eau arrive ici. La température de l'eau rafraîchit la pièce en été et la réchauffe en hiver. La maison est donc isolée de manière naturelle.
Ultime avantage, ces habitations sont insubmersibles. En cas de montée des eaux, c'est tout le quartier qui montera avec le niveau de la mer, sans dégâts.
Face à la montée des eaux, conséquence du réchauffement climatique, eh bien, des architectes, des concepteurs, des spécialistes, comme vous l'avez entendu, imaginent de nouvelles façons d'habiter les zones littorales et les bords de mer. Aujourd'hui, on estime qu'un quart de la population mondiale vit près du littoral et 680 millions de personnes résident dans des régions côtières dont l'altitude est inférieure à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Autant dire qu'il va falloir s'adapter et réinventer nos vies avec l'océan comme horizon et pourquoi pas vivre sur et sous la mer. Un joli sujet dont nous discutons avec nos deux invités que je suis ravie d'accueillir dans notre studio. En direct, Jacques Rougerie, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Vous êtes architecte, océanographe, membre de l'Académie des Beaux-Arts et pionnier, on peut le dire, hein, des villes marines. On va le comprendre en tout cas avec vous.
Non, il y a eu d'autres architectes qui ont pensé à ces villes marines bien avant moi.
Pensé, mais pas forcément réalisé.
Oui, c'est vrai, mais... si, non, les peuples de la mer, ça existait, que ce soit à Aberdeen, Hong Kong, que ce soit dans le Pacifique, que ce soit les Bajau aux Philippines.
On va en parler. Voilà. Eh oui, on va en parler de ces peuples de la mer avec vous. Et avec vous, et face à vous, Marie-Hélène Ruse, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de géographie physique à l'Université du Littoral Côte d'Opale, spécialiste de géomorphologie du littoral, membre du laboratoire d'océanologie et de géosciences. Et vous êtes co-auteur, on devrait dire co-autrice d'ailleurs, du livre « La marche de l'océan » paru aux éditions D'une rive à l'autre. Et puis dans l'œil du monde planète, la journaliste du quotidien Le Monde, Inès Koudi, nous parlera d'investissements immobiliers qui mettent en péril le dernier delta naturel d'Europe en Albanie. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé par Anaï Morales, avec l'appui de Sandrine Chaperon, avec Vanessa Chang et les équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Colin Gruel et Alexandra Malka avec à la technique Mélissandre Roux.
À son arrivée, il y a plus de 40 ans, la plage s'étendait tellement qu'il fallait marcher au moins 5 minutes pour atteindre le rivage. Aujourd'hui, le club de surf d'Habib est en passe d'être englouti par les eaux. Pour éviter le pire, il dépense jusqu'à 1 million de francs CFA par semaine pour faire poser des sacs de sable sur plusieurs mètres de haut autour de son établissement.
Franchement, moi, je suis épuisé. À un moment, on ne peut plus, hein, c'est l'océan, quoi. Dès que l'eau rentre, c'est déjà trop tard. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir anticiper avant, c'est pour ça que j'ai protégé. Vous pouvez voir que rien n'a été détruit ici. Tout est resté intact, à la limite de mon mur et de mes sacs de sable. Sinon, tout le reste, regardez autour de vous, tout le reste a été complètement détruit.
Pour certains, il est déjà trop tard. À 30 km du club d'Habib, la propriété d'Alex, 60 ans, n'est plus qu'un champ de ruines. En août, des vagues géantes ont tout emporté.
Avant, ça venait, on avait les vagues de 6 mètres, on avait les vagues de 5 mètres, mais cette fois-ci, on avait les vagues de 14 à 15 mètres. Et regardez, ma résidence, tout est parti.
Reportage tourné en Côte d'Ivoire et diffusé sur TV5 Monde le 3 décembre 2023. Des terres et des littoraux que vous connaissez bien, Jacques Rougerie. Vous avez vécu en Côte d'Ivoire, je crois, sur les rivages à Abidjan pendant votre enfance.
Ah, tout à fait, ce qui m'a donné une empreinte indélébile par rapport à mes engagements vis-à-vis de l'océan.
Et alors, votre père était biogéographe, il étudiait les milieux aquatiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment lui qui, peut-être, vous a intronisé dans cette passion de l'océan ?
Oui, je pense indéniablement à travers ses recherches, à travers ses amis, ses collègues qui avec qui il échangeait. Et c'est vrai que j'étais fasciné par ces explorateurs, puisqu'il était explorateur avant tout. Et donc, j'étais fasciné par ces explorateurs, par ces histoires. J'étais fasciné par Jules Verne, évidemment. Et puis après, par le commandant Cousteau, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que l'empreinte, elle vient de là. Et pourquoi, alors, aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un regard... si vous voulez, si j'essaie de me rappeler, l'image la plus lointaine de mon existence, c'est face à l'océan. C'est face à l'océan.
Alors vous parlez des compagnons de route, hein, on peut peut-être les mentionner parce qu'ils vous ont imprégné aussi, ça nous permettra de mieux comprendre la façon dont vous imaginez la terre, la mer, l'océan en tout cas, et comment habiter en terrien et en mérien. Théodore Monod, Haroun Tazieff, Alain Bombard, Paul-Émile Victor, Yves Coppens, tous ces gens-là ont fait partie de votre univers enfant et un peu plus tard.
Oui, j'ai été baigné par eux. Alors Yves Coppens, un peu plus tard, enfin il n'y a pas très, encore jusqu'à son décès il y a deux ans. J'ai été baigné par ses grandes aventures et c'est sûr que ça a une influence indéniable sur mon destin.
Votre prise de conscience des effets du réchauffement climatique, est-ce que vous, il y a une image ou un moment peut-être qui marque ce temps-là pour vous?
Oui, d'abord une image, alors là je vais réfléchir, mais dans les débats de mon père avec Théodore Monod, avec un certain nombre de chercheurs, c'était déjà, il y avait une empreinte qui était en train de naître, il se posait, c'est comme les problèmes environnementaux, l'écologie avant l'heure. Voilà, c'était des biogéographes, donc ils s'intéressaient à la géographie des paysages, du climat, et de voir un peu les changements dus au climat progressivement. Mais l'image, peut-être certaines tempêtes sur ces grandes plages africaines, alors que les anciens disaient qu'ils avaient déjà à l'époque, mais c'était pas aussi fréquent que maintenant. Donc c'est vrai que peut-être ça m'a un petit peu marqué. Mais pour être très honnête, tout ce qui est changement climatique est venu beaucoup plus tard.
Oui, avec le rapport du GIEC, etc. Voilà, oui, j'imagine. Marie-Hélène Ruse, alors vous, votre vie entre la France et le Canada, en tant que spécialiste de géomorphologie du littoral, voilà, c'est
oui,
cela.
C'est ça.
Est-ce que, de la même façon, il y a une prise de conscience qui fait que le fait de vous intéresser aux traits des littoraux, sableux, les dunes, le recul de ces littoraux, la hausse du niveau de l'océan, etc. Vous avez passé 10 ans au Canada.
Oui, mais avant ça, je suis née en Bretagne, au bord de la mer. Donc, dès ma plus tendre enfance, en fait, j'ai baigné dans l'Atlantique. Hein, ça a été pour moi évident de consacrer ma carrière à l'étude des littoraux. Hein. Et j'ai eu l'opportunité, pendant ma thèse, de participer à une mission scientifique au Spitzberg et de découvrir les littoraux arctiques et ensuite au Canada, là aussi j'ai travaillé sur les côtes vraiment arctiques en bordure de la mer de Beaufort et puis après plusieurs années en bordure de la baie d'Hudson. Et dès les années 90, je dois dire que déjà les côtes arctiques étaient affectées hein, par le changement climatique, non seulement en raison de la remontée du niveau de la mer, mais également ce sont des côtes très basses et qui littéralement fondent et qui mettent en péril hein, les communautés inuites hein, qui vivent les villages hein, en bordure de ces littoraux, aussi bien au Canada qu'en Alaska.
Donc très tôt, vous avez vu peut-être ces populations spécifiquement repenser leur façon d'habiter les littoraux et de vivre avec l'océan ?
Alors surtout, ils essayent de lutter, en fait, hein, de maintenir. Ils sont sur des littoraux très très bas et ils essayent de se protéger parfois avec les moyens du bord. Hein, ils mettent des sacs de sable, enfin ils font comme ils peuvent en fait pour essayer de rester.
Oui, pour l'instant, c'est un peu s'adapter, mais en luttant contre les effets plutôt que d'imaginer autre chose.
Jacques Rougerie. Attention, on ne peut pas lutter contre la mer. Hein. Mm. C'est, le vrai débat, il est là. Mm. La vraie philosophie, est, les grands enjeux de demain, suivant les zones géographiques, comme vous venez de dire, les économies, les cultures, on ne peut pas lutter contre la mer. Je crois que
il faut composer avec elle.
Oui. C'est exactement le terme.
Oui.
Alors, d'ailleurs, j'adore ce titre que Marie-Hélène nous propose, la marche de l'océan. Je trouve ça merveilleux. C'est exactement ça. Comment voulez-vous la marche de l'océan?
Oui.
Vous pouvez pas aller contre cette marche.
Donc il faut y aller.
C'est un titre merveilleux. Hein, c'est un titre vraiment merveilleux.
Et depuis très très longtemps, puisque on a retrouvé au fond de la Manche des restes de, en fait, d'installations humaines. La Manche était encore à sec il y a 12 000 ans et la mer est remontée rapidement. Et c'est un énorme chantier archéologique.
Avec des restes de mammouths, avec des outils, avec le Doggerland
Oui. Oui. Sur maintenant ce qui est devenu, ce qui était une île, le Doggerbank est maintenant, donc c'est un banc de sable. Donc ce qui veut dire que des populations depuis plus de 8000 ans ont été affectées par ces phénomènes.
Alors, des phénomènes qui ont une évolution avec des facteurs naturels, et puis ces derniers siècles, ce sont des facteurs aussi anthropiques qui ont cette influence sur cette dynamique littorale. Jacques Rougerie, vivre sur et sous la mer, un rêve de votre part, mais qui nécessite de tenir compte justement de cette évolution de la planète. Est-ce que, au début, peut-être que vous n'intégriez pas dans vos projets le réchauffement climatique et ses conséquences? Qu'est-ce qui a changé finalement?
Mais par contre, j'ai intégré vivre sous la mer très jeune, parce que quand mes copains construisaient des cabanes dans les forêts tropicales de Côte d'Ivoire, moi, je voulais les construire dans les lagunes. Dans la lagune, plus exactement, ou dans l'espace, vous voyez. Donc déjà, j'avais cette empreinte de bâtisseur, de vouloir être plus ou moins architecte, océanographe, je sais, mais pas très bien, un peu musicien, par-ci, par-là. Donc je me cherchais un peu, mais pour moi, c'était, waouh, vivre sous la mer, le rêve de Jules Verne, va mieux sous la mer. Cousteau, c'était les prémices de la grande aventure Cousteau. Voilà, et puis très très vite, les premières maisons sous-marines de Cousteau.
Et oui, Jules Verne en mentor, il y a cette phrase que vous mentionnez souvent, tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront capables de le réaliser.
C'est une phrase qui est essentielle, qu'il faut bien... Que c'est l'empreinte, là aussi, de toute ma réflexion, de tous ces travaux que j'ai menés depuis maintenant 50 ans. C'est-à-dire d'avoir un imaginaire, de se projeter à très court terme et en même temps de se projeter à très long terme pour ouvrir les champs des possibles.
Et puis Léonard de Vinci aussi, qui s'est inspiré du vivant. Donc vous avez comme ça des idoles, on peut dire, c'est votre panthéon idéologique créatif, Jacques Rougerie. Et puis parmi ces idoles, Jacques-Yves Cousteau, le film Le Monde du Silence que vous avez vu en 1956, une révélation. Allez, je vous propose, alors non pas d'écouter la voix de Jacques-Yves Cousteau, mais étant donné qu'on parle justement de ses réalisations, il avait visiblement aussi des idées de ville marine. Alors voilà comment ces idées étaient accueillies en 1962 sur France Inter.
À Monaco, le commandant Cousteau vient de faire des déclarations assez étonnantes. Il a dit en substance hier soir « Sous peu, l'homme vivra sous l'eau, comme il vit sur terre. À cet effet, je construirai bientôt, cette année peut-être, des prototypes de maisons sous-marines munies de tout le confort moderne. Ainsi, des hommes poissons pourront dormir et manger sans regagner la surface et accomplir ainsi un plus grand nombre d'heures de travail dans le monde sous-marin. » Les premières maisons seront bâties d'abord par 8 mètres de fond, puis 16 mètres, 30 mètres, et enfin une station d'altitude, si l'on peut dire, serait créée à 60 mètres de profondeur. Ah, les tranquilles week-ends que nous allons passer dans notre petite chaumière au fond des eaux.
Alors, on sent l'ironie du journaliste.
Oui,
alors,
oui, tout à fait.
Je vais plus loin, je vais vous dire à quelle date a été diffusé un 1er avril. 1er avril 1962. On peut dire que le journaliste croyait peut-être à une blague. Et non, et alors vous, plus tard...
Non, 62... Gagarine en 61 partait dans l'espace et Cousteau en 62 ont immergé au large de Marseille la première maison sous-marine Diogène au monde dans laquelle il avait vécu par moins de 12 mètres de profondeur. Et quelques années plus tard, au même endroit, exactement au même endroit, j'émergeais avec la Comex et la Marine Nationale, une maison sous-marine qui s'appelait Hippocampe.
Ah oui, alors la maison Galatée?
Alors c'était Galatée, en 77, c'était avant. C'était avant. C'est Galatée, c'était 77. Mmh. Et 1977, aller au Japon. Voilà, c'était ma première maison sous-marine. Ça a été une expérience extraordinaire. C'est les premiers moments de vie sous l'eau. Et voilà. Et après, bon, j'ai eu la chance de participer à un certain nombre d'expériences avec les Américains dans Tacta, Hydrolab, enfin, un certain nombre de maisons sous-marines. Parce que, on ne sait pas, mais il y a eu plus de 56 maisons sous-marines à travers le monde depuis Cousteau, qui se sont développées. Mais en France, non.
Ah oui. Et alors, vous avez eu la chance de réaliser votre vœu en 1992 avec 71 jours passés dans un habitacle sous-marin aux États-Unis, alors.
Oui, tout à fait. Mais on croit que c'est extraordinaire de pouvoir vivre en osmose avec ce monde. Donc, ça vous donne d'autres sensations, d'autres visions de ce que représente cet univers. Vivre en permanence sous la mer, après, le comportement de l'éthologie des animaux change, enfin revient naturel parce que vous n'êtes pas un prédateur et c'est jour après jour, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est extraordinaire, c'est sublime de vivre sous la mer. C'est comme un astronaute, de poser la question à un astronaute, il n'a qu'une envie, c'est d'y retourner dans l'espace. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de retourner sous la mer. J'ai fait 13 expériences d'habitat sous la mer, j'espère en faire une 14e.
Oui, parce qu'il faut quand même préciser pour nos auditeurs qu'il ne s'agit pas d'imaginer une vie totale sous la mer, c'est que vous concevez ces maisons comme des possibilités d'aller vivre à certains moments et de revenir ensuite, d'être terrien.
Oui,
Et mérien, c'est ça.
Terrien et mérien, vous l'avez très bien dit, et même marin, si vous voulez, donc les trois entités. Mais vivre sous la mer, attention, dans une maison sous-marine, on n'est pas enfermé. Vous avez d'abord des hublots de plus en plus grands avec les technologies qui se développent, mais surtout, vous sortez de la maison sous-marine pour justement évoluer dans cette troisième dimension que vous offre l'espace sous-marin, et puis pour travailler et faire un certain nombre de travaux. Et vous revenez dans la maison sous-marine, vous vivez, vous dormez, vous déjeunez, vous écoutez de la musique avec des sonorités évidemment différentes, parce qu'au niveau des sens, beaucoup de choses sont modifiées. Vous n'entendez pas les sons tout à fait de la même façon au niveau tactile et ainsi de suite, au niveau visuel. Donc vous vivez absolument pas... C'est comme dans l'espace, vous vivez un autre monde... Vous l'acceptez, et je peux vous dire que c'est des moments uniques dans la vie de pouvoir vivre de tels rêves et de telles passions.
Et vous dites, on peut en sortir, c'est-à-dire forcément en tenue de plongée, alors?
Ah bien, vous sortez en scaphandre autonome,
oui.
Mais vous ne remontez pas à la surface. Vous revenez dans cette zone pressurisée, donc on équilibre la pression interne par rapport à la pression externe, qui fait que vous pouvez sortir directement de votre maison sous-marine par le dessous. Elle est suspendue entre deux eaux et vous remontez à l'intérieur. Et vous faites les paliers de décompression dans la maison sous-marine, en finale, pour remonter à la surface.
On pourrait passer des heures à effectivement imaginer ce possible, ce monde du possible. Mais qui est possible, puisque vous l'avez expérimenté, hein, Jacques Rougerie, Marie-Hélène Ruse. Un rêve ou un cauchemar pour vous?
Ni l'un ni l'autre. Parce que personnellement, oui.
J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas très adepte de la plongée.
Je ne suis pas très à l'aise sous l'eau. Mais en fait, les fonds océaniques, pourrait dans des temps futurs représenter finalement une nouvelle frontière conquérir. On a conquis l'Est, l'Ouest, etc. Mais ça pourrait justement être un nouveau défi de dépasser en fait nos limites aussi. En tant que terrien avec des poumons, on n'a pas encore de branchies. On ne peut pas encore vivre sous l'eau.
Mais face à cette montée justement de l'océan, des eaux en tout cas, de peut-être imaginer non plus forcément résister, mais...
Alors la plupart des terriens ne pourront pas, j'imagine, habiter sous l'eau.
Mais sur l'eau peut-être.
Je suis d'accord avec vous, oui.
Peut-être, mais dans des endroits abrités.
Oui, c'est ça.
Pas en pleine mer.
Et non, il ne faut pas... Jacques Rougerie. Pas non plus, attention, c'est une image un peu, quand je dis habiter sous la mer, c'est pas définitivement, physiologiquement, on n'est pas prêt. Peut-être dans 10 000 ans, 100 000 ans, vu l'évolution du corps humain et des technologies, mais À l'heure actuelle, non. C'est justement, comme vous venez de le dire, c'est explorer un nouveau monde qui s'ouvre à l'humanité, qui s'ouvre à notre civilisation, le comprendre, l'étudier pour le protéger, mais aussi pour le développer pour le bien commun de l'humanité, d'une autre, peut-être, d'une autre façon, parce que les jeunes sont très attachés à la protection, et ils ont raison, mais il faut développer des économies fortes quand même pour défendre l'environnement. Il faut des économies fortes, je suis désolé, et il faut nourrir les peuples du monde, il faut trouver les médicaments du futur, il faut trouver les énergies renouvelables venant des océans, il faut retrouver les biotechnologies. Donc tout cet univers est au service de l'humanité, mais donc il faut y aller. Voilà, oui, donc, il faut le protéger, mais il faut y aller. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Donc c'est un petit peu à l'image de l'ISS dans l'espace, voilà, c'est-à-dire que ce sont des lieux pour la recherche, pour la science, pour essayer de trouver des solutions pour le meilleur,
oui,
pour l'humanité.
Ça ouvre un champ incroyable pour les jeunes start-up, pour le développement de nouveaux métiers, pour l'économie, comme je vous dis. Il faut se rendre compte de ce que représente l'univers. On connaît rien, quasiment rien de ce monde sous-marin. On connaît que très très peu de choses. Ces dorsales abyssales, on vient juste de les découvrir dans les années 70. C'est quoi? C'est hier. Cousteau, la plongée sous-marine, c'est à peine 60 ans. Oui. C'est donc hier.
Et les abysses.
Voilà. Donc tout ça est très nouveau pour l'humanité. Il faut s'adapter progressivement, raisonnablement, avec d'autres moyens certains que de développement comme on l'a fait. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pas parce qu'il y a la montée du niveau des eaux qu'on va vivre sous la mer. C'est pas parce qu'il y a la bombe atomique qu'on n'ira pas vivre sous la mer, et ainsi de suite. Non. Je crois que ça fait partie des grands enjeux de l'humanité pour les générations futures, avec des hauts, des bas. On y croit. Regardez la conquête spatiale, l'homme sur la Lune. On a cru. Moi, j'ai cru. J'ai rêvé de ça, que la Lune, on allait se développer. Et puis, il y a eu un temps qu'ils ont, on en a pu parler pendant 30 ans quasiment, et on y revient, et ainsi de suite. C'est cyclique.
C'est par vague, on dira, sans mauvais jeu de mots, mais c'est par vague.
Suivant les politiques.
Exactement. Bon, alors, s'adapter, cela passe donc par une autre façon d'habiter les littoraux et la mer, ou par le déplacement aussi inévitable de certains des habitants, selon les zones, comme à Atafona, au Brésil.
Un bout de mur au fond du jardin et un petit tas de débris, c'est tout ce qu'il reste de la maison de Vitória. Quand elle et son mari ont décidé de l'acheter, il y a 34 ans, ils étaient loin d'imaginer qu'elle disparaîtrait sous les eaux.
On ne voyait même pas la mer, elle était très loin. Et aujourd'hui, la mer est dans ma maison. Maintenant, une partie de ma maison est sous l'eau.
Ils ont pris la décision de quitter les lieux au mois de novembre, quand un premier mur a commencé à s'abîmer. 4 mois plus tard, la maison entière a été engloutie.
La nuit, le son des vagues est assourdissant, c'est très fort. On a l'impression qu'on va être aspiré, que toute la maison va nous tomber dessus.
On est blessé par ce qu'il se passe. Ce matin, j'ai été voir les ruines et on est énervé de voir que rien ne se passe, personne ne fait rien. Et je ne crois pas que les choses vont changer.
À Atafona, plus de 500 maisons sont désormais enfouies sous le sable. Un phénomène dû à plusieurs facteurs, le réchauffement climatique bien sûr, mais aussi la perte de débit du fleuve Paraíba, dont les deux tiers sont captés plus au sud par les villes de São Paulo et Rio de Janeiro pour alimenter les métropoles en eau et électricité. Marcela Toledo est chargée de l'environnement à la mairie d'Atafona.
Nous sommes face à 3 propositions. Construire une digue, installer des sacs de sable à l'horizontale ou encore remblayer artificiellement la plage grâce à une barrière de roche. Ces 3 propositions ont été envoyées à l'Institut environnemental, l'INEA, qui doit évaluer l'efficacité de ces projets.
France Culture, de cause à effet. Le magazine de l'environnement, Aurélie Luneau.
C'était un reportage diffusé sur RFI le 18 mai 2022. Marie-Hélène Ruse, une réaction peut-être, puisque là on parle de Atafona, et je précise que le livre donc que vous avez commis avec Felipe Fittipaldi, mais justement les photos de ce photographe, ce sont les photos prises à Atafona.
Oui. Alors, à Atafona, ça fait quand même plusieurs décennies qu'ils ont ce problème d'érosion. Il y a près de 500 maisons qui sont déjà parties, qui ont été détruites par la mer. Alors, c'est un contexte assez particulier parce qu'on est là sur un delta. Donc un delta, c'est à l'embouchure d'un fleuve, un fleuve qui apporte énormément de sédiments, ces matériaux s'accumulent et forment ces avancées sur la mer en de forme grossièrement triangulaire, d'où le terme delta. Et ce sont des milieux très très plats. Et donc Atafona est installé en bordure de ce delta, qui depuis près de 70 ans est privé de sédiments. Puisque le fleuve a été, effectivement, il y a de nombreux barrages, il y a également des industries, de l'agriculture intensive. Et quand on barre un fleuve, eh bien, forcément, les sédiments restent dans le barrage. Et c'est un problème assez fréquent et qui touche ces zones très basses. Elles sont quoi, à 1-2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, souvent, quand on parle d'érosion, il faut aller chercher souvent un manque de sable, un déficit sédimentaire. Et évidemment, l'élévation du niveau de la mer eh bien, va exacerber ces phénomènes, mais qui, à l'origine, beaucoup de phénomènes sont liés à des interventions humaines.
Et oui, alors on parle déjà de réfugiés climatiques, 250 millions. Alors attention, réfugiés climatiques, qui la plupart du temps se déplacent dans leur pays, parce qu'ils n'ont pas, eux, l'envie d'être déracinés et de partir ailleurs. Mais je crois qu'on annonce une prévision de 600 millions de déplacés climatiques à venir.
Et particulièrement dans les zones basses, et particulièrement sur ces deltas. Je pense au delta du Gange en particulier, qui est peuplé quand même par près de 100 millions de personnes. Et là, à la fin du mois de mai, ils ont connu un cyclone peu actif, mais ce cyclone a eu pour conséquence le déplacement d'un million de personnes.
On voit qu'un petit peu partout dans le monde, il y a quand même ces villes aussi, des villes qui sont menacées.
Jacques Rougerie. La destruction de la mangrove. Oui, voilà, c'est dramatique. On s'en rend pas compte, en dehors de la biodiversité qui se développe au cœur des mangroves, parce que c'est des zones de frayère extraordinaires. Mais par rapport à la montée des eaux, la mangrove, justement, permet de stabiliser un peu les alluvions, enfin les sables.
Oui, et
tout.
Puis c'est aussi une barrière contre l'énergie des vagues. Elle casse l'énergie des vagues. Et malheureusement, beaucoup disparaissent pour l'élevage des crevettes tropicales.
Alors face à ces conséquences, justement, on voit dans certains pays se développer des villes flottantes. Jacques Rougerie, est-ce que ce sont des solutions, justement? Comment vous regardez?
Ça peut être des solutions. D'abord, il faut... Bon, nous, on n'est pas en France, c'est pas dans notre culture. On voit passer depuis très peu de temps un certain nombre de projets à ce niveau-là. Mais dans les pays asiatiques, ils vivent sur l'eau, dans ces deltas dont on parle, que ce soit au Vietnam, en Birmanie, dans toutes ces zones où j'ai été, ou les Mokens, donc en Birmanie, ou les Bajau en Philippines. J'ai fait toute une étude sur les Bajau. C'est extraordinaire. Vous avez les Bajau, c'est un peuple de plus de 6 millions de personnes qui vivent sur des maisons sur pilotis ou des maisons flottantes. Donc il y a une culture à ce niveau-là ancestrale. Bon, alors maintenant, comment régler le problème, vous venez de le dire, 600 millions de réfugiés climatiques, puisque ça revient à parler comme ça. Qui va les accueillir? Comment trouver des solutions à des échelles différentes, économiques, culturelles, sociétales et tout? C'est un problème qui est très complexe, à des échelles très, très différentes. Le trait de côte, ça peut être du petit territoire au grand territoire. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Il y a une multitude d'approches qu'il faut commencer à réfléchir et à travers le monde en équipe pluridisciplinaire. Il n'y a pas une discipline qui a la réponse. Je crois que c'est en travaillant de concert avec différentes spécialistes qu'on peut commencer à amorcer. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des pays qui sont en avance, comme la Hollande, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il y a une culture, il y a une économie qui est liée à ça, il y a depuis des siècles déjà. Donc voilà, mais tous ces pays en voie de développement qui n'ont aucune aucun savoir-faire. C'est un vrai grave problème. Mais bon, je pense qu'il y a des jeunes qui gambergent bien, qui ont des rêves dans la tête. Il faut avoir des rêves, des passions, qu'on vit de trouver des solutions qui sont pragmatiques, parce qu'il ne faut pas avoir du rêve pour du rêve. Mais il faut avoir envie de trouver des solutions et d'avoir la sagesse de tester ces solutions et de ne pas les appliquer n'importe où. Voilà, parce qu'on a trouvé une solution. Ça ne s'applique pas à New York. La problématique de New York ne s'applique pas au Bangladesh et ainsi de suite.
Et oui, parce qu'à New York, je crois qu'il y a le quartier d'affaires de Manhattan qui est extraordinaire.
Par exemple, dans les Mondiliens, la fondation, justement, il y a des étudiants qui nous avaient proposé pour les Maldives de laisser ces peuples de pêcheurs sur leur terre ancestrale. Donc on s'est dit, comment ils les laisser sur... Alors qu'ils avaient choisi un village de pêcheurs de 4500 pêcheurs, enfin voilà, avec leur famille et tout, qui vivaient avec une hauteur... l'atoll était à 1,20 m maximum au-dessus de l'eau. Et donc, ils ont trouvé des solutions progressivement en faisant des caissons flottants avec des jardins. Donc, ça ne va pas d'un seul coup monter à 1 mètre. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 générations. Donc, il faut trouver progressivement des solutions et s'adapter et peut-être trouver des solutions, justement, de ces fameuses villes flottantes ou villages flottants dont vous parlez, dans ces atolls, au cœur de l'atoll, où ces peuplades pourront rester au-dessus de leur terre immergée, bien sûr. Mais voyez, ça peut être des solutions.
Et vous-même,
les technologies le permet.
Vous-même, vous avez imaginé, Jacques Rougerie, une ville flottante, je crois, d'environ 5000 habitants vivant de la pêche sur l'atoll, sur un atoll en Polynésie, non ?
Oui, à Mopia. Oui. L'atoll de Mopia, justement, on a réfléchi comment les maintenir sur cet atoll de Mopia et avec des structures flottantes, avec... si vous voulez, trouver une architecture biomorphique qui s'adapte à ce milieu et en plus dans leur culture, leur tradition, avec des matériaux traditionnels, mais projetés dans le futur.
Ah oui, et en s'inspirant quand même du génie de la nature. Ça, c'est quand même aussi votre marque de fabrique, on peut dire, non ?
Oui. Hein ? Oui, oui, je travaille dessus depuis pas mal de temps, disons.
on pourra en parler, bien sûr, dans l'émission. Marie-Hélène Ruse, qu'est-ce que ça vous inspire, justement, ces réflexions ou ce que vous voyez se mettre en place, hein, avec de l'innovation? Parce que vous travaillez donc beaucoup sur le littoral français, à la Côte d'Opale. On imagine que la réception, peut-être, pour ce genre de solution n'est pas la même?
Alors, c'est une côte qui n'est pas tellement protégée des vagues. Il faut aussi ces installations, il faut les concevoir dans des baies protégées des vagues, des vents. Mais ce qui est intéressant avec ce que vous dites, effectivement, c'est que par rapport à d'autres risques naturels, là, c'est sur du long terme, du moins pour nous. Surtout, on sait que ça va arriver. Donc, on a le temps, on a encore des décennies pour se préparer. Et ça, je pense que
dans certains lieux géographiques, mais dans d'autres, c'est déjà trop tard, quand même.
Alors, pour l'instant, il y a quand même les gens quand même arrivent encore à survivre dans ces milieux-là. Mais quand on imagine effectivement le futur. Dans certains secteurs, en particulier dans les pays pauvres, il faudra que beaucoup de personnes se retirent, reculent vers l'intérieur des terres. Il n'y a pas d'autre solution. Et ce qui va probablement des concentrations de population importantes déjà dans des villes, et ce qui va sans doute aussi causer des conflits. Il ne faut pas se leurrer. Donc on peut imaginer pour certains pays riches des solutions, mais il faut voir que la majorité des personnes touchées par ces phénomènes vivent dans des pays pauvres où il n'y a pas du tout non plus de possibilité d'adaptation. Il n'y a pas les moyens dont nous disposons, les moyens financiers, les moyens techniques et même les moyens d'alerte des populations. Et ça, il faut en avoir conscience. Oui. Hein,
les pays les plus pauvres, oui, les plus touchés par les effets, les conséquences du réchauffement climatique, il faut le rappeler. À ce stade de l'émission, nous allons découvrir un de vos choix musicaux. Hein, donc, ce sera un choix musical de Marie-Hélène Ruiz. Mais auparavant, je voudrais quand même donner... Une petite information à nos auditeurs, Jacques Rougerie. Vous avez parlé de ce monde du silence où la musique a toute sa place quand même. Vous avez fait partie d'un groupe de rock quand vous étiez jeune. les Panthères, c'est ça?
Oui, les Neiges du Kilimandjaro, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ah ben oui, Pascal Danel. Ouais.
Voilà, non mais... et puis avec Claude Nougaro, Claude, un personnage merveilleux.
Oui. Et donc, vous avez tenté une carrière. Vous étiez guitariste,
musicien,
je crois, non?
Oui, ouais. Oui.
Bah, votre maman était
voilà,
musicienne.
Je faisais illusion. Et... Mais enfin, j'ai quand même joué à l'Olympia.
Ah ben là, c'est pas de l'illusion, quand même.
Oui, faut pas exagérer. Non, j'ai vite abandonné, mais ça me plaisait bien, quand même. C'était un monde particulier. C'était toute une époque, c'était sympa. C'est... Une insouciance, d'une certaine façon.
Bon, et les Neiges du Kilimandjaro, pardon.
Oui.
Vous les écoutez, vous les avez écoutées peut-être
dernièrement.
Oui, ou enfin, en tout cas, est-ce que c'est ce genre de musique que vous écoutez sous la mer?
Alors non. Alors sous la mer, la musique d'abord passe à travers tout le système osseux.
Oui.
Ça, c'est extraordinaire. La musique sous l'eau, c'est fascinant. D'ailleurs, le son sous l'eau se propage. Le monde du silence, c'est un joli titre, mais ça n'a jamais été le monde du silence. Voilà, donc Cousteau le savait d'ailleurs. Mais le son sous l'eau vous envahit, vous amène dans un imaginaire incroyable. Ça vous transporte parce que c'est votre cage thoracique rentre en résonance, votre boîte crânienne et tout. Et on n'écoute pas du tout les mêmes sons de la même façon. Donc, les Neiges du Kilimandjaro, pour être très sincère, j'ai jamais écouté les Neiges du Kilimandjaro sous l'eau.
Ah, bah alors c'est une expérience à faire, non?
Tout à fait.
Marie-Hélène Ruiz, votre choix musical qui va nous transporter?
Oui, c'est un morceau de Lamb Shop, hein, donc This Corrosion, donc voilà.
Que vous écoutez vous laisse,
oui, j'aime beaucoup
sur
Lamb
Terre.
Shop. Que j'écoute, moi, sur Terre, pas loin de l'eau, mais sur Terre.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement, Aurélie Luneau.
Give me the ring. Kissed and told, give me something that I missed. Give me the ring, a hand to hold, wild, what it seemed. Give me the ring, kill the king, when love is the law. Give me the ring, give me dream child, do you hear me call?
Cause à effet, c'est la suite du magazine de l'environnement sur France Culture avec pour thème ce soir l'océan à l'horizon, comment les littoraux et leurs habitats se réinventent. Nous en discutons avec nos deux invités, Jacques Rougerie, architecte, océanographe, membre de l'Académie des Beaux-Arts et oui, je dis pionnier des villes marines, mais je maintiens pionnier des villes marines, et Marie-Hélène Ruiz, professeure de géographie physique à l'Université du Littoral Côte d'Opale, spécialiste de géomorphologie du littoral et membre du du laboratoire d'océanologie et de géosciences. Alors, lutter ou s'adapter, que faut-il privilégier?
Depuis la fin du mois de mai, la digue sud de 800 est en travaux. L'ouvrage, fragilisé par le temps et l'érosion, doit être consolidé.
Ces travaux consistent dans un premier temps à enlever donc les gros rochers qu'on avait donc sur cet emplacement, à remettre du sable, à mettre un géotextile et à repositionner donc les rochers qu'on a enlevés et un complément de rochers qui est apporté. Parce qu'avec les tempêtes qu'on a eues ces derniers temps, on ne sait pas ce que l'automne va nous amener. Il est quand même urgent d'agir avant que ce soit trop tard.
Coût de l'opération pour une dizaine de mètres d'enrochement, 100 000 euros hors taxes, le prix à payer pour la sécurité du site. En 2015, des travaux beaucoup plus importants avaient été entrepris pour reconstruire une partie de la digue endommagée par les tempêtes. Année après année, l'ensemble de la promenade est consolidé pour le plus grand soulagement des habitants qui vivent à proximité.
De toute façon, c'était à faire, c'était prévu depuis déjà pas mal d'années et ça devenait de plus en plus dangereux parce qu'en fait, les enfants pouvaient tomber. Ça a été très efficace, hein. Ça a été fait il y a au moins une trentaine d'années, ça n'avait pas bougé. Mais bon, là, c'est normal qu'on remette un peu au goût du jour, enfin qu'on redonne de la solidité.
C'est un reportage diffusé le 14 juin 2023. Et tout récent sur France 3, à 800, que vous connaissez bien, Marilyn Ruse.
Oui, effectivement. Depuis de nombreuses années, notre équipe suit l'évolution de ce littoral, une très belle baie entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Griney, donc une petite station balnéaire le long de la côte d'Opale qui, effectivement, fait face à des problèmes d'érosion, et ce, depuis plusieurs décennies. Donc, nous travaillons, nous suivons l'évolution de ce littoral en essayant de comprendre, en fait, pourquoi on a une telle érosion. Là encore, plusieurs causes possibles avec après-guerre. Il faut bien voir que dans de nombreuses communes, on a reconstruit à la hâte et on est allé chercher le sable qui était à proximité immédiate. Donc il y a eu dans la baie des extractions de sable. On ne connaît pas tout à fait les quantités, les volumes qui ont été extraits. Hein. Et depuis, ma foi, il y a aussi là un manque de sable. Et s'il y a un manque de sable, eh bien, c'est la mer qui gagne sur la terre.
Donc ça, c'est une des causes, mais il y en a d'autres.
Une des causes, oui. Avec aussi, c'est une baie où il n'y a sans doute pas tellement de sédiments qui arrivent jusqu'à la plage. Et il a fallu effectivement consolider cette digue promenade. Hein. Je me souviens d'une tempête en 2007, elle a été pulvérisée par les vagues. C'était impressionnant, ça paraît solide, une digue recouverte de bitume ou autre, mais non, elle n'a pas du tout résisté à l'assaut des vagues.
Alors on voit que là, il y a donc ces constructions, l'enrochement ou l'empierrement, en tout cas, essayer de trouver des solutions dures, hein, c'est presque une lutte sans fin. Vous travaillez beaucoup justement sur le terrain, Marilyn Ruse, sur la co-construction nécessaire, parce qu'il n'y a pas que les solutions dures, il y a aussi des solutions douces, et qu'il faut peut-être aussi amener les citoyens à comprendre comment faire évoluer, ne pas chercher forcément à protéger et essayer de lutter, mais s'adapter. Comment vous faites ?
Ça, c'est assez difficile, hein, puisque il y a des personnes qui vivent là depuis des années, qui ont leur résidence principale ou leur résidence secondaire, qui sont attachées au territoire. Quand on a travaillé avec les habitants de cette commune, évidemment, ce qui est apparu, c'est l'attachement au territoire, tous leurs souvenirs d'enfance. Ils n'envisagent pas effectivement facilement d'abandonner. Donc, il y a des solutions qu'on appelle effectivement les solutions dures, c'est-à-dire maintenir à tout prix, enrocher, bétonner, finalement défigurer. Ce qui peut permettre pendant un certain temps, effectivement, de maintenir en place les infrastructures.
Parfois, mais ça n'arrête pas la marche de l'océan.
Exactement. Hein. Elle est lente pour l'instant, cette marche, mais elle est inexorable. Oui. Bon, dans certains cas, de toute façon, on n'a pas le choix. On doit maintenir des infrastructures portuaires devant des centrales nucléaires. Avant qu'on ait le temps de réfléchir à leur devenir. Mais là où le déficit sédimentaire, c'est-à-dire quand on a vraiment un manque de sable, là c'est inéluctable, la côte recule. Dans les secteurs où le recul n'est pas trop important, on peut effectivement avoir recours à des techniques qui s'inspirent tout simplement de la nature.
Oui. Donc,
De favoriser l'accumulation de sable avec des techniques ancestrales. On a des édits qui datent du 15e, 16e siècle où les habitants étaient obligés par exemple de planter des zoyas, ces plantes qui fixent le sable. Ça fait très longtemps qu'on connaît cette technique. Il suffit de faire des petits fagots de branchage, de les disposer en haute plage et pendant l'été, du moins, ils vont capter du sable. Même si ce sable est enlevé par les premières tempêtes, ce sable constitue en fait un tampon.
D'accord.
Ce qui va faire que la dune qui est derrière va pour un temps être protégée. Donc on a des solutions qu'on appelle souples et qui, dans certains cas, nous on voit, fonctionnent très très bien parce qu'on réussit vraiment à reconstituer des dunes qui sont les premiers remparts contre la mer.
Oui. Jacques Rougerie, alors là on parle de solutions. Est-ce que vous croyez aussi dans les innovations, enfin et l'un et l'autre d'ailleurs, donc en même temps sachant qu'il faut repenser ce qu'on met derrière le progrès technologique, mais est-ce que on parle souvent de solutionnisme, comment vous positionnez par rapport à ça face aux technologies, l'innovation technologique qui pourrait quand même nous aider aussi à trouver des solutions.
Oui, tout à fait. Mais déjà ce qui vient d'être dit là, c'est extrêmement intéressant parce que dans des tas de cas de figure, ça peut s'adapter. C'est et par exemple avec la fondation, puisque j'ai la chance d'avoir une fondation à l'Institut de France, à l'Académie des Beaux-Arts, où on a 150 pays de jeunes, donc de plus de 12 000 jeunes à travers le monde, dans des équipes pluridisciplinaires, dans les universités, qui travaillent sur ces thèmes et qui nous proposent différentes solutions, comme on disait, à différentes échelles.
Vous l'avez créé en 2009.
Je crois qu'il y a eu plus de 12 000 jeunes. En 2009.
C'est ça. Voilà. Et plus de 12 000 jeunes à travers le monde ont déjà travaillé sur des projets
qu'on a comme partenaire. Donc on travaille
venant de 150 pays.
De 150 pays. Et c'est passionnant de voir l'imaginaire de ces jeunes, les propositions qu'ils... par exemple, on a beaucoup, beaucoup d'équipes asiatiques. Les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens, les Philippins et tout, sont, eux, très, très engagés à trouver des solutions, mais qui vont dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à des échelles d'écosystèmes, voyez, adaptés, retrouver des techniques ancestrales, les réadapter par rapport à amplifier avec de nouvelles technologies.
En respectant la nature et les environnements, les écosystèmes, en fait.
C'est bien.
Ah oui.
Et par exemple, là, cette année, on a primé un projet qui était un projet japonais, une fois de plus. L'année dernière, c'était japonais. En 2023, pardon, puisqu'on n'a pas encore primé le 2024. Et justement, ça allait dans le sens de capter le sable. Donc, ils ont imaginé des structures de plage avec le vent et de capter avec le sable et de positionner et de refaire des plages. Et ils ont fait un modèle qui fonctionne très, très bien. Il y a des solutions douces. Trouver des solutions douces. Moi, personnellement, dans des cas de figure, c'est vrai, il faut pouvoir avoir des solutions dures, mais les éviter au maximum. Je crois que les Japonais, là aussi, sont bien placés parce qu'ils ont eu des solutions dures le long du littoral. C'est épouvantable ce qui s'est passé le long du littoral japonais. Ils en sont revenus. Bon, ils avaient des tsunamis, mais comme ils vivent essentiellement, le peuple japonais, le long du littoral, des îles, du Japon. Mais ils pensent vraiment trouver d'autres solutions beaucoup plus douces. Voilà. Et puis,
Et des bétons bas carbone et des solutions qui ne prennent pas non plus trop de sale, parce qu'on sait ce que les ciments, etc., nécessitent aussi comme matériaux, comme sable.
La réflexion est relativement récente, puisque ces phénomènes, la prise de conscience est quand même relativement récente. Donc, c'est vrai que on n'a pas encore suffisamment de recul et d'expérience pour trouver des solutions qui s'adaptent au mieux. Donc, c'est pour ça que ce que vous disiez, le temps, il faut pas non plus exagérer. Enfin, il faut. Je fais attention à ce que je dis. Il y a urgence, mais pas dans la précipitation. Oui, c'est ce que ça. Je veux dire.
Oui.
On a devant nous 40 ans, 50 ans. Dans certains cas de figure, comme ça a été dit, c'est plus rapide, donc il faut aller à l'essentiel dans les zones où c'est plus rapide, mais c'est pas l'ensemble de la planète.
Et pour d'autres, chercher des solutions qui soient...
Non. Parce que ce que l'on constate, par exemple, le long du littoral, de la côte d'Opale, on a, une érosion importante à Vissant, et à quelques 10, 15 kilomètres plus loin, au contraire, la côte avance.
Et
très
ça,
rapidement.
Effectivement,
donc ça dépend,
dans vos travaux.
En fait, du bilan sédimentaire, du stock de sable disponible.
Alors, vous restez bien sûr avec nous, parce qu'il est l'heure de retrouver l'œil du monde planète en partenariat avec le journal Le Monde. Et nous sommes avec Inès Koudi pour parler d'investissements immobiliers qui mettent en péril le dernier delta naturel d'Europe en Albanie. Bonsoir Inès.
Bonsoir Aurélie. C'est un sujet dont on parle même sur le réseau social X. Les internautes parlent d'eau turquoise, de plages paradisiaques, de magnifiques voyages. Concernant l'Albanie, ce petit pays niché entre les Balkans et la mer Méditerranée, qui a un potentiel attirant aussi des visages comme Jared Kushner, époux d'Ivanka Trump et gendre du candidat républicain. L'homme d'affaires a annoncé vouloir investir 1 milliard d'euros pour construire hôtels de luxe, villas et appartements, notamment dans le delta du fleuve Vjosa, situé au sud du pays, à l'entrée de la mer Adriatique.
Mais alors pourquoi est-ce que cela pose problème ?
Parce que ce genre d'espaces bruts, complètement naturels, sont devenus rarissimes en Europe. Et que cette zone, convoitée par le milliardaire, est considérée comme le delta fluvial le plus intact du continent. Pas de barrages, très peu d'activités humaines autour du fleuve. C'est un havre de paix pour la biodiversité et des espèces comme le pélican frisé, les flamants roses ou les spatules, ces oiseaux au large bec. La lagune de Narta, en plein cœur du delta, est par exemple l'un des lieux de reproduction et de repos les plus fondamentaux de la route de migration adriatique que de nombreux oiseaux empruntent pour atteindre l'Afrique du Nord.
Et pourtant, Inès, cette zone est labellisée zone protégée ?
Eh bien oui, elle l'est d'ailleurs grâce à une mobilisation en 2019 et pas des moindres, puisqu'elle a pu compter sur les voix de l'acteur Leonardo DiCaprio ou encore du directeur général de la marque Patagonia. Le projet de Jared Kushner a été rendu possible par un changement de législation en février dernier, quelques semaines avant l'annonce de l'investissement. La nouvelle loi permet de construire dans les zones protégées s'il s'agit de centres touristiques ou d'hôtels, je cite, « d'excellence classés 5 étoiles ou plus ». Les ONG de défense de la nature ou militants pour la transparence politique se sont d'ailleurs insurgés contre la vitesse à laquelle cette loi a été adoptée.
Alors, quels sont les enjeux politiques de cet intérêt soudain pour le potentiel touristique de l'Albanie ?
Disons que cet intérêt n'est pas si soudain que ça. Richard Grenell, ex-ambassadeur sous Donald Trump, est étroitement associé au projet. Il a été envoyé spécial pour les négociations de paix entre la Serbie et le Kosovo entre 2019 et 2021, et a fait largement la promotion du tourisme en Albanie sur ses réseaux sociaux, posant même tout sourire aux côtés du premier ministre albanais Edi Rama durant des vacances estivales en 2023. L'Albanie est aussi un État candidat à l'entrée dans l'Union européenne depuis juin 2014. L'Union s'inquiète d'ailleurs des effets en cascade de cette législation albanaise qui ne respecte pas le droit européen en matière de protection de la biodiversité. Le pays des Balkans mise sur le tourisme pour se développer économiquement après avoir passé des décennies fermées sur lui-même. Mais des ONG et politiques rappellent qu'un tourisme vert peut être possible, notamment en créant des parcs nationaux et en évitant de bétonner les toutes dernières parcelles de nature qui restent en Europe.
Merci Inès Koudi.
Merci Aurélie.
Et votre article sur ce sujet sensible est accessible comme d'habitude sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et également sur lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Et oui, on l'entendait, hein, le béton a encore de beaux jours sur certains littoraux comme en Albanie. Jacques Rougerie, parmi les projets que vous avez dans vos cartons, parce que vous avez toujours un imaginaire débordant, on voit bien qu'en même temps, vous êtes aussi tiré par la manche aujourd'hui, parce que certains de vos projets sont plus qu'utiles, hein, par rapport aux défis environnementaux et climatiques dont on parle. Est-ce que il y en a un peut-être que vous rêvez de ressortir ?
Un projet qui me fait plus rêver qu'un autre ?
Oui.
C'est toujours difficile quand on a plusieurs enfants, lequel vous choisissez, c'est toujours une question délicate. Moi, j'ai qu'un enfant, donc au moins, je sais choisir. Non, si vous voulez, c'est vrai que la synthèse de ce parcours de 40 ans lié à la mer et au monde de l'espace, on n'en a pas parlé, mais c'est très lié.
Vous avez travaillé avec Jean Chrétien d'ailleurs. Hein,
tout à fait.
C'est ça.
Et donc, c'est Cyorbiter, c'est le projet Cyorbiter.
On peut en parler.
Voilà, c'est la station un petit peu ISS des océans. C'est comme la station ISS de l'espace. Voilà, c'est un projet d'une nouvelle génération.
C'est
d'engin
vertical,
d'exploration.
Hein.
Oui, voilà, vertical. C'est un bateau, imaginez un bateau à la verticale qui dérive, qui est complètement autonome, qui dérive dans les grands courants océaniques, notamment dans le Gulf Stream. Et voilà, pour explorer ce monde méconnu, comprendre les phénomènes climatiques, comprendre les conséquences sur la biodiversité dans ces grands courants de migration de cette biodiversité. Voilà, mais c'est vrai que par exemple en ce moment, bon, un petit clin d'œil, j'ai aussi la fierté avec mon équipe d'architectes, avec Rougerie Tangram, d'être les architectes de la Marina Olympique pour les Jeux Olympiques à Marseille. Et c'est une grande fierté parce que c'est le domaine de la mer, de ces jeunes qui vont apprendre de ce que représente l'océan à travers le sport. Le sport et environnement, c'est extrêmement lié de plus en plus. Donc ça me fait plaisir de voir déjà tous les entraînements qu'il y a eu et d'offrir à cette jeunesse cet équipement. Oui. Pour moi, c'est et pour toute notre agence Rougerie Tangram, ça a été merveilleux. Voilà, ben, mais sans ça, je rêve, vous voyez, de retourner sous la mer, dans Cyorbiter, parce que c'est une maison sous-marine, il y a une base sous-marine, on va être 24 personnes d'équipage, et j'espère qu'en 2026-2027, on verra ce magnifique navire naviguer au large des côtes françaises.
Eh bien, on vous suivra avec 31 mètres immergés, Marie-Hélène Ruse, le mot de la fin. Vous continuez vous aussi à rêver, à solliciter les imaginaires peut-être des citoyens dans cette co-construction de nos littoraux.
On a beaucoup travaillé, oui, avec eux pendant 3 ans. Là, maintenant, on s'intéresse à d'autres projets. En particulier, là, on commence un projet européen. On est 7 pays et on travaille avec les Néerlandais, hein, qui sont les maîtres de l'eau,
oui,
en fait. Et pour, à l'échelle de l'Europe, voir si on peut édifier justement des dunes devant les digues. C'est un projet qui s'appelle Dune Front et qui va aussi favoriser la biodiversité sur les littoraux.
Eh bien, on vous suivra tous les deux. Merci à tous les deux. Marie-Hélène Ruse a mentionné le livre Commis avec le photographe Felipe Fittipaldi, La marche de l'océan, c'est son titre. Un livre paru aux éditions D'une rive à l'autre. Jacques Rougerie, pour en savoir plus sur vos réalisations et votre fondation, direction le site de l'émission, vous trouverez tout. Et puis merci à notre stagiaire Clément Gilles Soul qui nous accompagne. Informations, liens, bibliographie, tout est à votre disposition comme d'habitude sur le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, podcast. Réécoute aussi de toutes nos émissions dont de nombreuses mettent l'océan à l'honneur. Alors bonne plongée à tous.